à la Brunante de Narcisse-Henri-Édouard Fauché de Saint-Maurice. Le fantôme de la roche, partie 1, seul. Note sur le titre. L'honorable L.A. Olivier, ex-sénateur et aujourd'hui juge de la Cour supérieure, a publié en 1845 sous le titre « Le débiteur fidèle » une nouvelle charmante dont le fond est brodé sur cette légende. Une note de M. Olivier publiée dans le Répertoire national dit « Le fait sur lequel repose cette histoire m'a été rapporté comme véritable. L'est-il ? Jugera. Qui lira ? Le lieu de la scène était l'île d'Orléans, près de Québec. Fraser le nom, au lieu de Dumont. Il y a erreur de localité, la scène s'est passée à Beaumont, où M. Fraser vint s'établir après la conquête. Fin de la note sur le titre. Il y a déjà 8 mois que ma pauvre grand-mère est morte. Ici, pendant tout ce temps-là, l'oubli et le cimetière creusent silencieusement leurs ruines. Moi, j'y pense toujours avec amour. Je la revois encore au fond de ma chambre, aimable, souriante et belle sous son diadème de cheveux blancs, me regarder de son œil gris et serein, s'appuyant sur sa petite canne de frêne, gagner tout doucement, clopin clopant, le grand fauteuil en cuir de Russie, d'où elle savait causer avec tant d'esprit et d'indulgence sur les douces choses d'autrefois et sur les curieuses absurdités du temps présent. Pauvre grand-mère, dire que vous nous avez quittés depuis 8 longs mois, et cela malgré toute notre tendresse et tous nos petits soins, le canapé où vous êtes morte est encore là, triste et solitaire, en face de votre causeuse à peine refroidie, et pourtant, rien qu'à regarder ces objets que vous aimiez tant et qui respirent encore votre vie, il me semble entendre votre voix claire et sympathique me raconter les légendes et les histoires de jadis. Je suis seul ici ce soir, grand-mère. Il vente dehors et la pluie tombe froide et serrée au cimetière. Allons, revenez auprès de moi, tisonnez le feu qui s'éteint et asseyez-vous là, bien en face de moi. Personne ne vous dérangera, j'ai fermé ma porte à tous les bruits du dehors. Causons, en doute tête à tête, et contez-moi une longue histoire bien horrible, telle que celle du fantôme de la roche. Elle me faisait si peur dans le temps. Vous vous en souvenez, grand-mère ? Le fantôme de la roche, partie 2. À crédit.
Si je m'en souviens de la légende du fantôme de la roche, je le crois bien. Sans cela, il faudrait être ignorante de ces traditions de famille. Et chez les Fraser, on se la lègue de père en fils depuis plus de 100 ans. Je veux bien t'en faire part, car pour toi aussi, enfant, il arrivera ce jour où il te sera donné de voir le terrible fantôme de la roche. Autrefois, j'avais un grand-oncle qui vivait dans la rue de Notre-Dame. Cela était en 1764. Et tu vois que ça ne date pas d'hier. La basse ville était alors le quartier le plus aristocratique de ce cher vieux Québec, qu'on commence à me démolir. Il nous quitte pierre par pierre, et bientôt il n'en restera plus rien que ses rues étroites et tortueuses, et son cap gris, tout triste de se voir veuf de ses canons. Déjà s'en vont ces vieilles portes dont on était si fiers autrefois. Elles gênent la circulation, paraît-il. Du moins, monsieur le maire nous l'assure, et il faut bien déranger ces niches poussiéreuses où dort silencieusement notre histoire pour laisser passer deux voitures de front. Ah! Les vieillards sentent bien qu'ils sont de trop maintenant. Les jeunes le leur disent tous les jours en se laissant mourir jeunes. Et puisqu'il est bien vrai que les vieilleries ont fait leur temps, je dois bientôt me préparer à partir moi-même. Mon grand-oncle demeurait donc dans la rue Notre-Dame. Je ne l'ai connu que par les récits de mon père, mais c'était, m'a-t-il dit, un beau vieillard, large d'épaules, l'œil vif, les cheveux grisonnants, qui jadis avait été capitaine dans les montagnards de Fraser. C'était un de ceux qui avaient eu pour triste mission d'aller incendier Saint-Joachim. Là, il s'était querellé avec le cruel Montgomery. Et comme tout le monde savait qu'il s'était montré humain, il réussit à captiver le cœur de ma grand-tante. Et tous deux s'étaient mariés après la signature de la paix. L'ordre était alors arrivé de licencier le régiment. Et comme le ménage n'était pas riche, chacun avait réuni ses modestes ressources, ce qui servait à faire fructifier un petit commerce qui allait tant bien que mal. De temps à autre, une poule glissait dans le pot-au-feu. Et que pouvait-il demander de plus en ces temps de gêne? Dans cette rue, il vivait sans faste, sans bruit, craint et respecté par tout le quartier. Car si le capitaine Fraser était honnête homme, il en exigeait autant de tous ceux qui l'approchaient, et pour être plus certain de son coup, il ne faisait jamais crédit. Or un jour, l'oncle Augustin était debout à la porte de son échoppe, la main passée chaudement dans la large ceinture en laine fléchée qui lui serrait la taille, selon la mode du temps. Il faisait froid, c'était en automne, et sans doute le capitaine Fraser songeait que vers cette époque il chassait autrefois le chevreuil dans ces rues des chères montagnes d'Écosse, si lointaines maintenant, et pourtant si présentes à sa mémoire. Autour de lui cheminaient en bandes joyeuses les gais voyageurs qui s'en allaient passer l'hiver attrapés et à courir les bois et les solitudes de l'ouest. Ce soir-là même, les bateaux devaient partir pour hiverner à Montréal. Les anciens avaient pronostiqué une saison longue et giboyeuse, et chacun allait retenir son passage, tout en chansonnant en chœur. V'là l'automne qui est arrivé, tous les voyageurs sont montés, nous n'irons plus voir nos blondes. Dans les chantiers, nous hivernerons. La, 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 la. Certes, il fait bon de voir tous ces braves gens partir comme cela, le cœur gai, le sourire aux lèvres. Et tout en se disant cela, mon oncle se frottait les mains et murmurait.
Ils ont bien raison d'être joyeux, ma foi. Le travail les attend là-bas, tandis que voilà la morte saison qui arrive pour moi. Il faudra que je dise ce soir à Jeanne de mettre en bouteille ce vieux whisky écossais que m'a envoyé mon cousin Malcolm. Quel plaisir! N'aurais-je pas cet hiver à les déboucher une par une en compagnie du vieux capitaine de la Corne, qui prétend toujours que le Canada a été vendu par de Vergors au lieu d'avoir été conquis par Wolfe. Je vois d'ici le chevalier clignait finement de l'œil, tout en emplissant son verre d'un bon doigt, puis y versait doucement l'eau chaude, en disant « Chaperlotte, qu'il fait froid dehors ! Brrr !» À votre santé, capitaine Fraser.
Il en était là de son monologue lorsqu'un voyageur, se détachant du groupe qui flânait au coin de la rue, s'en vint timidement vers mon oncle, qui riait tout seul en lui-même, rien qu'à songer aux douces joies de son logis.
« Bonjour, capitaine Fraser. »
lui dit-il tout en ôtant respectueusement son bonnet de fourrure.
« Bonjour, l'ami. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Vous m'avez donc oublié, capitaine Fraser, puisque vous ne me tutoyez plus ?»« Pardine, il vient tant de monde à mon magasin que cela serait encore très excusable. Allons, approche-toi ici que je te reconnaisse. »
Le voyageur s'avança vers le capitaine qui lui frappa joyeusement sur l'épaule en disant
« Tiens, tiens, cet excellent Martial Dubé que j'ai tiré des griffes du capitaine Gorham. Sans moi, mon homme, tu promettais d'être proprement scalpé. »
« C'est très vrai cela, monsieur Fraser. Sans vous, ça y était et l'on me rangeait dans la catégorie des trophées de guerre. Mais tout de même, ce service n'a pas été aussi grand que vous semblez le croire.
Et comment cela, Martial?
C'est que, voyez-vous, capitaine, tout dans Beaumont a été brûlé et mis à sac par les rangers du misérable Gorham. Aujourd'hui, il ne reste plus rien à ma vieille mère qui travaille maintenant à la journée chez des habitants. À son âge, c'est dur, capitaine, elle a 60 ans passés. Et toute cette misère m'a forcé de partir pour courir ma chance et essayer de lui venir en aide en montant dans les bois.
Tu fais bien, mon garçon. Et ce ne sera pas moi qui t'en blâmerai, je connais le commandement. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement.
Oui, oui. Je le connais moi aussi. Je trouve que c'est beau comme commandement. Mais comme promesse, ça vaut pas grand-chose. Car en somme, la vie n'est pas drôle.
Avez-vous des chemises de flanelle à vendre, capitaine?
Certainement, Martial, et des plus belles encore. Comment t'en faut-il?
Oh, pas celles-là, monsieur Fraser. Elles sont trop chères. Décrochez-en de vos plus communes. Et rien qu'une, car je n'ai pas de moyens. Il me faut encore une paire de bottes sauvages, une ceinture de laine, un couteau avec sa gaine. Et dire qu'il va me falloir demander toutes ces choses-là à crédit.
Comment? À crédit? Mais tu dois bien savoir, Martial, que je n'en fais jamais. J'ai même refusé d'ouvrir un compte pour le gros colporteur de la rivière, qui vend de la marchandise jusqu'en bas de Saint-Jean-Port-Joli.
Je le sais.
Reprit tristement Martial.
Mais pour moi, vous ne me refuserez pas, monsieur Fraser. Regardez, je suis si pauvre maintenant. Puis, tout le monde s'accorde à dire que l'hiver va être magnifique pour la pelleterie.
Vous n'y regarderez pas de si près, monsieur, et vous n'empêcherez pas un malheureux de partir pour gagner honorablement quelques sous et venir en aide à sa mère.
Voyons, monsieur Fraser, laissez-vous attendrir.
Mais, mon ami, si j'écoutais ainsi tout le monde, il me faudrait fermer boutique avant la fin de la semaine. Pour ne pas me ruiner, j'ai dû établir une règle sévère et je ne puis m'en départir.
Allons, monsieur Fraser, un peu de pitié pour l'amour de Dieu. J'ai pas d'autre garantie à vous donner que ma parole, mais soyez sûr qu'elle vaut celle du roi de France. Et mort ou vif, je vous paierai ce que vous allez m'avancer.
« Si je savais que tu serais discret, je ne dis pas encore, mais en route on parle. Il faut bien se vanter un peu quand on n'a plus rien à se dire. Et ce que je ferais pour toi, il me faudrait le faire pour d'autres. À ce compte, toute transaction serait impossible et il n'y aurait pas de commerce pour tenir debout pendant 6 mois. »«
Voilà les bateaux qui partent, allons !»
Un bon mouvement, monsieur Fraser, je n'en dirai rien, je vous le promets. Mais si tu allais te noyer en route, Martial?
Je vous le dis, monsieur Fraser, mort ou vif, je vous paierai.
Mon oncle Augustin était un brave homme, au fond.
Il décrocha proprement ce que Dubé lui avait demandé, en fit soigneusement un paquet et le lui mit sous le bras, tout en lui versant un verre de rhum.
« À ton bon voyage, Martial !»«
Merci, capitaine, merci. Ne craignez rien. Serais-je au fond du purgatoire que je reviendrai vous payer ?» Le fantôme de la roche, partie 3. Martial paie sa dette.
« Prendrez-vous du thé, chevalier ? Voyez comme il est chaud et parfumé. Si vous essayez une fois de ce breuvage, je parie que vous ne pourrez plus vous en passer. »«
Capitaine, vous êtes un tentateur. Vous autres Anglais, vous ne vous méfiez pas assez des Chinois, qui se vengent de votre commerce d'opium,
en vous servant en retour un énervant qui entre comme base de toutes vos maladies.
Le spleen, par exemple. »
Un Français n'est pas autre chose qu'une agglomération de préjugés, chevalier. Je vous exempterai du thé, mais à une condition, mon vieil ami. C'est que vous allez goûter à ce whisky que je me propose de faire mettre en bouteille à demain.
Ah, pour cela, volontiers. Il est bon et vaut 100 fois cette guilidive que l'on nous a donnée en ration sur les plaines d'Abraham.
Vous vous rappelez, capitaine, le maître coup d'épée que votre serviteur vous prêta en ce jour historique.
Comment ? Si je m'en souviens, monsieur de la Corne, sans la boucle d'argent qui retenait mon plaid, vous étiez en train de me désarticuler l'épaule. Ah ! Vous êtes aujourd'hui la cause d'une série de rhumatismes qui me tombent dessus à chaque saut de température. Et vous m'avez métamorphosé en un douloureux baromètre.
Bah, vous avez le remède à côté du mal. Vous n'aurez qu'à choisir au milieu des chaudes flanelles de votre étalage pour vous soigner à point. À votre santé, vieux Richard.
Vous en parlez à l'aise de mes flanelles, chevalier. Si un marchand se servait comme cela, que resterait-il à la clientèle? Dans le triste état où se trouve le pays, il faut économiser.
Mais c'est vous, capitaine Fraser, qui prenez vos aises en parlant d'un pays que vous et les vôtres avez dévasté, pillé, incendié, puis, en fin de compte, acheté et soldé.
Dieu merci, vous ne nous avez pas conquis, car il y avait de bonnes lames ici,
ajouta monsieur de la Corne, en frappant distraitement sur sa jambe gauche, croyant y rencontrer encore le fourreau de sa fidèle épée d'autrefois.
« Heureusement que je la connais, celle-là, et je parierais que c'est encore le nom de ce pauvre capitaine de Vergor qui va revenir sur le tapis. Voyons, chevalier de grâce, calmez-vous, nous ne sommes pas aussi ogres que vous le croyez envers vos compatriotes étonnés. Je veux bien vous faire une confidence, moi, qui vous parle en ce moment. » J'ai fait une chose qui ne m'est arrivée de ma vie. J'ai avancé du crédit, et cela à un Canadien français.
Pardine, la belle affaire! Nous prenez-vous pour des escrocs de Newmarket?
Dieu merci, nous payons nos dettes, nous, le pays tout entier. Dût-il y passer? Vous serez toujours intraitable, chevalier. Et pourtant, il va falloir m'écouter car je me suis mis en tête de vous raconter mon histoire. »
Et il se prit alors à dire à monsieur de la Corne ce qu'il avait fait pour le pauvre Martial Dubé. À mesure que mon grand-oncle parlait, le chevalier laissait échapper de nombreuses marques d'assentiment, puis quand il eut terminé son récit, il essuya furtivement une larme et dit en se levant brusquement,
« Monsieur Fraser, je veux faire quelque chose pour cette pauvre vieille femme Dubé. Demain, je vous apporterai 100 livres, et en attendant, je vous souhaite le bonsoir. »«
Hurrah ! Pour le chevalier !»
cria le capitaine Fraser, en le reconduisant vers la porte.
« Je m'associerai à votre bonne œuvre, et je donnerai autant.
bonne nuit, au revoir, cher Samaritain. »
Il se faisait tard lorsque les pas du chevalier commencèrent à se perdre sur le pavé de la rue Notre-Dame. 11 heures sonnaient à l'horloge de l'épicerie du coin, et le capitaine, après avoir jeté un regard dans l'obscurité du dehors, verrouilla fortement sa porte, essuya du revers de sa manche la vitre de la petite lanterne qu'il tenait à la main, et, avant de monter se coucher, commença l'inspection qu'il faisait chaque soir de son magasin. Ballots de marchandises fraîchement arrivées d'Écosse, boîtes à thé venues de Chine, mélasse et guildive des îles, eau-de-vie de France, toutes ces bonnes choses de son commerce défilaient tranquillement sous le rayon pacifique de la lanterne de mon oncle. Partout, l'ordre régnait. La nuit promettait d'être tranquille. À la porte résonnait le pas cadencé d'une patrouille, et de temps à autre arrivait un cri de détresse, poussé par le passant attardé, que les matelots pressaient pour recruter la marine de SM britannique, représentée en ce moment par deux gros vaisseaux de ligne ancrés dans la rade de Québec. Pas un voleur ne rôdait aux environs, et l'oncle Fraser, satisfait de sa promenade nocturne, se disposait à aller se mettre au lit. Lorsqu'en dirigeant un dernier rayon de lumière vers son comptoir, il aperçut, assis sur un ballot, la tête tristement appuyée dans une de ses mains, son ancien client, Martial Dubé.
Diable! Que fais-tu là, mon garçon?
La vie est un rêve, capitaine. Et pendant que je vous parle, mon pauvre corps roule au fond de la baie de Sainte-Croix. Je me suis noyé à 10 heures, cette nuit. Et je viens vous payer, monsieur Fraser.
De grosses sueurs froides perlaient du front de mon oncle. Sa main tremblait et les yeux écarquillés. Il regardait le spectre avec une telle épouvante qu'il comprit ses paroles sans les entendre. Les esprits sont ainsi faits, ils peuvent nous parler sans qu'aucun son vienne frapper l'oreille humaine.
N'ayez pas peur de moi, monsieur Fraser.
Continua l'imperceptible voix du spectre.
Les morts ne savent plus commettre le mal, et la méchanceté ne se trouve que sur la terre des vivants. D'ailleurs, je vous avoue, vous le savez, capitaine. Et tout à l'heure, quand vous vous êtes arrangé avec monsieur de la corde, pour venir en aide à ma pauvre mère, j'étais là, qui vous écoutait. Les défunts, les pauvres défunts, se mêlent constamment aux actes et aux pensées des hommes. Ils voient, comprennent et juge tout. Leur esprit est délié de toute enveloppe matérielle, et votre bonne action me fait du bien, puisque votre générosité met à l'abri les quelques jours d'expiation que ma mère doit encore passer sur terre. Quant à ma dette, voici comment vous serez remboursé. J'ai laissé un coffre à la pointe Lévis, quelques effets qui sont de bonne vente. Prenez sur le produit l'argent qui vous revient de droit. Et avec le reste, faites-moi dire des messes.
la voix s'éteignit peu à peu dans un murmure confus et mon oncle, les cheveux collés sur les tempes à force d'avoir sué sous le poids de la peur, se retrouva seul dans son magasin. La petite lanterne sourde lui montrait toujours le ballot où Martial s'était assis. Mais la mort s'était évanouie avec la voix sépulcrale et on n'entendait plus que le trottinement des rats sous le plancher. Alors, Monsieur Fraser regagna lentement à reculons la petite porte qui menait à l'escalier. Là, il se prit à grimper les marches 4 à 4 et, quand il fut bien pelotonné sous ses couvertures, ma grand-tante l'entendit murmurer entre 2 versets du De Profundis.
Ah, ma bonne Luce, Martial Dubé vient de me confier des choses que je ne dirai qu'à l'heure de ma mort. Partie 4. Le fantôme de la roche.
Depuis longtemps, le corps de ce pauvre Martial Dubé s'était dissous et avait disparu sous les vases de la baie de Sainte-Croix. Les biens de la terre continuaient à combler mon oncle de leur faveur. La prospérité débordait autour de lui et son commerce l'avait mis à même d'acheter une belle et grande propriété située dans le bas de Beaumont. Là, il vivait heureux et honoré. Ses capitaux étaient utilisés de manière à ne semer que l'amour et les joies du travail. Il s'appliquait surtout à donner un véritable cours d'agriculture pratique aux paysans, et chacune des grosses récoltes qu'il engrangeait prouvait plus contre la vieille routine que n'importe quel argument. Les saines leçons qu'il avait puisées dans ses champs d'Écosse le servaient à ravir. Et chaque année, mon oncle s'enrichissait à vue d'œil, si l'on en croyait les belles lucernes, les blés magnifiques et les seigles de la plus belle pousse, que vers l'automne, il s'en allait gaiement échanger à la ville contre du bon or anglais. On était alors vers le 21 octobre 1779. Mon oncle venait d'avoir 41 ans, et comme il savait profiter de tout et ne remettait jamais au lendemain ce qui pouvait se faire la veille, il était dans son champ et donnait des ordres pour le faire labourer. L'été des sauvages arrivait, et ce matin-là, le temps s'était révélé superbe pour la charrue et pour les bœufs. Leurs grands naseaux fumants humaient à délices les chaudes effluves qui sortaient du sol. Au loin, la nonnette et la mésange jetaient leurs cris plaintifs dans les feuilles, qui, avant de mourir, se drapaient frileusement sous leurs couleurs vives et pleines du jeu des lumières. On aurait dit qu'un souffle de printemps passait sur la prairie, l'insecte bruissait sous l'herbe jaunie, le vent était tiède, le soleil chaud, et pourtant, toute cette nature allait mourir et disparaître avant un mois sous un épais linceul de neige. La terre ressemble dans nos climats du nord à l'homme vieilli. L'une renaît et meurt sous les baisers du soleil, l'autre, partie de l'enfance, s'en retourne vieux et chancelant par l'enfance, et l'une est un enseignement pour l'autre. Or, après avoir donné ses ordres, mon grand-oncle descendit vers un petit vallon où coulait une source d'eau vive. Il dut s'y rafraîchir. Une demi-heure après, Pierre Touchet, qui guidait les bœufs, le vit reparaître et se diriger vers sa maison. Il était pâli. Et lui qui d'ordinaire marchait si alerte et si droit, il s'en allait distraitement, la tête penchée, les deux mains derrière le dos. Pierre crut à quelque chose d'extraordinaire et, laissant là sa charrue, il se prit à le suivre à distance pour voir ce qui allait se passer. Monsieur Fraser gravit lentement les marches de son perron. Sa femme était précisément à la porte qui balayait l'entrée. Il la baisa au front et, décrochant le corps qui lui servait à rappeler les hommes du travail, il se prit à le sonner vigoureusement. Debout sur le seuil de son manoir, le capitaine Fraser ressemblait à une apparition de sa jeunesse disparue. C'était ainsi qu'il devait sonner l'alali du cerf au fond des gorges sauvages de ces montagnes du Morven. Calme et impassible, c'était ainsi qu'il devait redresser sa haute stature sous la pluie de la balle que le royal Roussillon et le royal Angoulême faisaient grêler sur les rudes montagnards de son régiment au terrible jour de la bataille des plaines d'Abraham. Tout le monde courait à travers champs. On les voyait venir à qui mieux, croyant trouver la maison ou les bâtiments en feu. Mais le capitaine Fraser, sans répondre aux questions, sonnait toujours du corps jusqu'à ce que Louis Vallière, le dernier arrivé, mit le pied dans la salle où d'ordinaire les travailleurs mangeaient. Alors, il ferma la porte, se fit apporter un fauteuil et, faisant asseoir tout le monde, leur dit:
mes enfants, j'ai tenu à vous réunir ici pour vous dire combien je suis heureux de vous voir tous assidus au travail et aimer l'agriculture. Continuez, votre pain se gagnera toujours honnêtement et vous vous assurerez une vieillesse honorée. Je n'ai pas cessé de songer à votre bien-être, et quand je ne serai plus là, mes héritiers ont ordre de vous traiter avec la même sollicitude. Maintenant, veuillez me pardonner les torts que j'ai pu avoir vis-à-vis de vous. L'homme est né pécheur, et bien des fois j'ai pu vous froissez par ma sévérité. Aujourd'hui, l'heure de l'oubli est venue. Ne cessez pas d'être doux et bienveillant pour vos semblables. Tout est récompensé en ce monde. Et parce que jadis je fus bon envers un nécessiteux, je viens de recevoir une grâce inespérée. Dieu a permis que je fusse averti. Au soleil couchant, je dois mourir. Martial Dubé m'est apparu sur la roche du vallon. Il m'a dit que tout était fini et je n'ai que le temps de me préparer. Attelle au plus vite, Touchette, et va chercher M. Duchesneau, notre curé. Pierre se mit en route pendant que tout le monde pleurait et que ma grand-tante ne savait plus où donner la tête.
seul au milieu de tout ce monde en sanglots, mon oncle conservait son sang-froid. Il donnait ses dernières instructions, écrivait quelques lettres à ses parents d'Écosse. Puis, quand le curé fut arrivé, ils s'enfermèrent tous deux et Dieu seul sut ce qui se passa entre ces deux hommes. Seulement, lorsque l'abbé sortit, on m'a rapporté qu'il avait les yeux pleins de larmes, pendant que le front de mon grand-oncle rayonnait d'une sérénité angélique. Cependant, le jour baissait. C'était en octobre, 5 heures allait sonner et le soleil part vers cette heure-là. Mon oncle fit rouler alors son grand fauteuil auprès de la fenêtre qui regarde l'île d'Orléans et les Laurentides. Il murmura quelque chose à l'oreille de sa femme, puis, reposant sa main gauche dans celle de ma grand-tante de l'autre, il se prit à bénir ses enfants à genoux auprès de lui. En ce moment, le soleil plongea sous l'horizon et mon oncle Fraser, inclinant légèrement la tête, remit son esprit entre les mains du Créateur. Depuis lors, chaque fois qu'un Fraser doit mourir, le fantôme de la roche lui apparaît. J'aurai demain 80 ans, mon enfant, et l'heure terrible doit bientôt sonner pour moi. Mais ferme et sans peur, je l'attends sans trembler, car bien que je ne sache pas le latin, je commence à croire que mon père était sage lorsqu'il nous disait qu'Horace n'avait pas tort d'écrire. On s'attendrit davantage et l'on devient meilleur avec les années.
Le fantôme de la roche, partie 5. Seul. Il y a déjà 8 mois que ma pauvre grand-mère est morte. Et si pendant tout ce temps-là, l'oubli et le cimetière creusent silencieusement leurs ruines, moi, j'y pense toujours avec amour. Je la revois encore au fond de ma chambre, aimable, souriante et belle, sous son diadème de cheveux blancs, me regarder de son œil gris et serein, et s'appuyant sur sa petite canne de frêne, gagner tout doucement, clopin, clopin, le grand fauteuil en cuir de Russie, d'où elle savait causer avec tant d'esprit et d'indulgence sur les douces choses du passé et sur les curieuses absurdités du temps présent. Pauvre grand-mère, dire que vous nous avez quittés depuis 8 longs mois, et cela, malgré toute notre tendresse et tous nos petits soins. Le canapé où vous êtes morte est encore là, triste et solitaire en face de votre causeuse à peine refroidie. Et pourtant, rien qu'à regarder ces objets que vous aimiez tant et qui respirent encore votre vie, il me semble entendre votre voix claire et sympathique me raconter les légendes et les histoires de jadis. Je suis seul ici ce soir, grand-mère. Il vente dehors et la pluie tombe froide et serrée au cimetière. Allons, revenez auprès de moi, tisonnez le feu qui s'éteint et asseyez-vous là, bien en face de moi. Personne ne vous dérangera, car j'ai fermé ma porte à tous les bruits du dehors. Causons en doux tête à tête, et contez-moi une longue histoire bien horrible, telle que celle du fantôme de la roche. Elle me faisait si peur dans le temps. Vous en souvenez-vous, grand-mère? Hélas, rien ne me répond plus, et la voix aimée s'en est allée. Où sont les neiges d'antan? Seul, je reste essayant à percer de l'œil l'avenir noir qui s'étend devant moi jusqu'au jour où, à mon tour, je serai conforté et consolé par la bienveillante apparition du fantôme de la roche.